Eh ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci Elodie de m'avoir rapproché un peu de chez moi dans le Nord-Isère. Alors moi je vous emmène très loin parce qu'en fait on va partir en Tunisie. Moi j'avais titré cette communication La participation citoyenne au service de la reproduction des inégalités territoriales. Et donc je voulais m'intéresser au cas de la médecine entrepreneuriale et de cette société civile que je m'applique à mettre en guillemets, on discutera après, à Sfax en Tunisie. Ce que je vais présenter là, c'est aussi une partie de mon travail de thèse, en plus assez récente, que j'explore là depuis mon dernier terrain en mai de cette année. Moi, je suis en deuxième année. Hein. Après, ça fait depuis 2018 que je travaille sur ce terrain-là, mais voilà, c'est quelque chose, c'est vraiment un travail en cours. Et du coup, avant de rentrer dans la problématique que je voulais aborder aujourd'hui, je trouve intéressant de recontextualiser un petit peu de quoi on parle et pourquoi j'en suis arrivé là. Donc, en fait, moi, je m'intéresse au développement de l'industrie médicale privée en Tunisie et particulièrement sa composante urbaine qui prend place, alors, quasiment pour la moitié à Tunis, la capitale, mais aussi à Sfax, qui est le second pôle économique du pays. Et en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a une économie qui s'est construite, cette économie de la santé privée, qui s'est construite sur la libéralisation d'un secteur public déjà bien structuré dans le pays, et qui s'est enrichi en fait en particulier grâce à une patientèle internationale qui constitue aujourd'hui la majorité de la patientèle de ce secteur privé. Et je me suis focalisé après coup plutôt sur Sfax que sur Tunis, parce que, au contraire de la plupart des villes du Sahel tunisien que j'ai souligné là sur la carte au milieu, en fait Sfax n'est pas du tout orienté tourisme, et pourtant elle reçoit ses patients étrangers dans ce que les médecins aiment bien appeler une forme de tourisme médical. En fait, Sfax, c'est un port de commerce, un port de pêche, un centre économique assez important en Tunisie, mais pas du tout une ville touristique. Et donc, je me questionnais à la base sur l'articulation entre cet héritage industriel et cette forme de tertiarisation d'économie locale qui va à la faveur, alors pas que, hein, mais notamment de cette économie de la santé privée. Je ne rentre pas dans les détails hein, de ce travail, mais voilà, comme ça, vous avez un peu le contexte. Donc là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de questionner le rapport qu'entretiennent les médecins qui investissent dans ce milieu, et donc notamment à travers l'actionnariat dans des polycliniques privées, avec leur investissement, leur présence dans la société civile locale, qui sont, vous allez voir, très impliqués dans certaines luttes, qui se réclament notamment bottom-up, par en bas, partisanes, citoyennes. Donc on va regarder ça un peu en détail. Donc j'avais formulé ça un peu sous forme de question. Hein. Encore une fois, ça émerge d'un travail récent, donc je reste vraiment sur quelque chose d'hypothétique, j'essaie de pas trop aller dans les certitudes. Quelle relation entre l'accroissement des inégalités socio-spatiales donc, que j'analyse au prisme du secteur médical privé sfaxien et l'investissement, la présence des médecins investisseurs dans cette société civile. Donc pour ça, il y a trois hypothèses à regarder. D'une part, ce système de soins privés qui renforce les inégalités et qui accroît le pouvoir des médecins investisseurs. Une forme de surreprésentation des luttes environnementales qui met en fait un peu les autres problématiques à l'arrière-plan. Et enfin, ce que je propose, c'est de montrer qu'en fait, ces deux dynamiques, finalement, elles sont peut-être cohérentes et qu'elles vont plutôt dans un même mouvement. Alors, je vais faire un petit point méthodo aussi, parce qu'on m'avait demandé de préciser un peu sur quoi je me base. Je suis plutôt sur une méthode mixte, toujours en cours de construction. Hein. Et donc, il y a deux ordres. D'un côté, du quali, je vais plutôt mobiliser des entretiens récits de vie, donc particulièrement focalisé sur ces médecins investisseurs, mais aussi les directions administratives des cliniques, les personnels, et puis on va le voir après tout, les gens qui travaillent dans cette économie, de l'observation, et des choses qui m'ont permis aussi de révéler un peu ce que je vais raconter ici, des parcours commentés. Côté quanti, en fait, c'est plutôt une forme de contextualisation, donc là, je m'attache à localiser les établissements, les donner un peu leur ordre de grandeur, je relis ça un peu à la dynamique foncière, et globalement à l'activité économique de ce milieu. Donc en premier, cet accroissement des inégalités par la santé. Donc à la base, je vous l'ai dit, le système tunisien, il est très structuré, notamment il a une maille territoriale qui est assez intéressante. Ça date des années 60, quand Habib Bourguiba prend le pouvoir à l'indépendance du pays. Et on a une répartition assez homogène en fait des établissements de santé publique sur tout le territoire, avec cette unité de base qu'on appelle le centre de santé de base, et qui héberge systématiquement au moins un médecin généraliste, avec quelques infirmiers et infirmières, et assez souvent des services comme la pédiatrie, l'ophtalmologie, et parfois même un peu plus. On va retrouver au sommet de cette hiérarchie des CHU. Et en fait, ce qu'il faut voir ici dans ce système-là, c'est qu'en fait, on a plutôt une bonne distribution de ce réseau sur les territoires, et autant urbains que ruraux. Et ça, c'est assez important. Et d'ailleurs, tu avais commencé à le soulever, Elodie, et moi, ça m'intéresse carrément de questionner ça. Et en fait, aujourd'hui, le système privé, alors j'espère qu'on voit bien, parce que j'ai fait des petits points bleus, et bon, ça, le contraste est assez bon là-haut. Le système privé, il va complètement à contre-pied de cette logique-là. Et les cliniques qui sont un peu le pilier de cette économie, en fait, elles vont plutôt s'implanter sur des logiques, des critères fonciers plutôt que démographiques. Donc, premier effet de ça, c'est que, tout simplement, déjà, ça éloigne les populations, notamment précaires, de ces établissements. Ça renforce la domination spatiale de la bourgeoisie locale sur les espaces urbains, parce qu'en fait, ces projets-là, ils ne sont plus pensés que comme des projets médicaux, mais des véritables projets immobiliers. Et donc, ça entraîne dans leur sillage toute une forme d'économie locale, de services paramédicaux, qui vont être assurés notamment par des petits entrepreneurs individuels. Et ça, on va retrouver beaucoup, par exemple, d'ambulances et d'hébergements. Et d'ailleurs, ça produit aussi beaucoup un discours entrepreneurial à travers ce système, et je pense que c'est une composante assez importante dont je vais reparler un peu après. Et donc, hypothèse, moi, ce que je propose, c'est de voir qu'en fait, ça fait gagner un pouvoir politique et spatial à ces médecins investisseurs, parce qu'en fait, ils dépassent largement le périmètre de simplement leur activité médicale. Et là, ils vont se porter sur des logiques urbaines, de promotion d'un modèle, et bon, je lâche le gros mot, en fait, je pense, un peu néolibéral de la ville. Le second point, excusez-moi, c'est donc cette société civile qui, en Tunisie, est très forte, très présente, beaucoup de monde y participe. Alors, en fait, il y a un côté historique à ça, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup hérité d'une époque où la dictature, alors surtout sous Ben Ali, pas tant Bourguiba, Ben Ali a essayé son pouvoir beaucoup grâce aux associations, en fait. C'était un moyen d'avoir des relais locaux pour son système. Depuis la Révolution, c'est plutôt un double moyen pour, d'une part, venir parer aux défaillances assez nombreuses de l'État tunisien, et de l'autre, trouver un espace d'expression politique pour des citoyens qui prennent place dans un État, malgré la Révolution de 2011, qui est encore assez verticale, et encore plus à Sfax, qui est une ville qui a longtemps été marginalisée en fait, du système politique national. Il y a trois grands thèmes, alors c'est assez classique, hein, mais vous allez voir que... On va détailler un peu d'engagement dans ces luttes. Il y a les questions sociales, les questions économiques et plus récemment, les questions environnementales. Et donc, c'est sur ce dernier point que je fais le lien avec les médecins investisseurs, parce qu'en fait, les luttes les plus réussies de ces dernières années, c'est celles qui portent justement sur le volet environnemental. Et plus spécifiquement, on va en voir deux, qui sont des succès assez importants, vous allez voir que c'est assez intéressant. Et en fait, les collectifs qui ont porté ces luttes-là, ils sont constitués pour une bonne part, encore une fois, ce n'est pas du tout hégémonique, hein, de médecins à leur tête, et donc des médecins qui sont aussi investisseurs dans les systèmes que j'ai présentés juste avant. Une de ces luttes, donc, ça a été la fermeture de la dernière usine de traitement des phosphogypses, hein, qui est en gros le matériau de base pour la réalisation d'engrais et que la Tunisie exporte beaucoup. C'était un site très très polluant, pendant des décennies, alors il y a un gros terril qui en fait prend place à quelques centaines de mètres du centre-ville. Ça a pollué la mer, ça pollue les sols, ça pollue l'air. Et donc ils ont fait fermer cette usine en 2016. Et puis il y a une deuxième lutte qui est un peu plus particulière et sur laquelle je voudrais m'arrêter, beaucoup plus récente. C'est cette plage du casino. Donc en fait, suite à la réussite de la fermeture de cette usine qui s'appelle la SIAP, le collectif qui a conduit ça s'est pas arrêté en chemin, et en fait ils ont voulu dépasser ça et marquer un peu plus le coup de leur réappropriation et des revendications qu'ils avaient sur l'espace urbain sfaxien. Et donc ils se sont intéressés à un ancien espace qui était autrefois, donc avant les années 70, une plage aménagée à la pointe est du port de la ville, qui a été privatisée par une compagnie étatique pour agrandir des espaces de stockage du port. Et en fait, pendant des décennies, c'est resté relativement inutilisé. C'était plutôt à l'abandon. il n'y a jamais vraiment eu les infrastructures à la hauteur des ambitions qu'en avait l'État. Quoi. Et c'est cet endroit qui a été retenu par le collectif pour pousser son combat. Et alors là, c'est impressionnant parce qu'ils ont mobilisé des fonds propres, leurs relations, leur réseau d'influence. Ils ont réussi à mobiliser beaucoup de bénévoles, alors notamment beaucoup grâce à Facebook aussi. Ils ont fait dépolluer une grande partie du site. Donc là, on voit sur les images, ils ont fait construire une promenade en dur. C'est-à-dire qu'en fait, là, les pavés, les palmiers que vous voyez, c'est ce collectif qui a fait construire ça. Et de l'autre côté, donc sur la photo de droite, une plage. Alors, cette photo n'est peut-être pas la plus vendeuse, mais en fait, le sable qu'on voit là, c'est un sable qui a été importé, qui est spécifiquement, conçu. C'est un vrai sable de plage, quoi. Ils ont fait venir des camions pour dépolluer, pour ensuite remettre en place un sable praticable pour les loisirs de plage. Quoi. Donc le résultat, assez impressionnant, on a cet espace qui court sur environ 400 mètres de long. Et donc quand je fais mes parcours commentés avec les quatre têtes du mouvement, ils sont très fiers de ce résultat. Et d'ailleurs, ils ont joui grâce à ça, hein, d'une vraie popularité à Sfax, en s'appuyant beaucoup sur ce discours environnement, reconquête de la mer, opposition citoyenne à cette mainmise de l'État sur leur espace public. Et en fait, c'est là où je vais revenir du coup à mon hypothèse de départ, parce que pendant ces parcours commentés, il y a des choses assez intéressantes, et notamment sur les pratiques et les représentations qui vont à travers ces lieux-là, et qui guident cette lutte et la forme que prend ce lieu. Et en fait, je pense qu'il y a une certaine forme de pérennité des fractures sociales. Déjà, c'est un espace public de loisirs qui a été conçu là dans une ville qui en manque énormément. Sfax, selon, si on prend l'aire urbaine, le gouvernorat, c'est entre 5 et 600 000 habitants. Il y a très très peu d'espaces similaires à ça. Et doublé d'une grande proximité avec le centre-ville, en voiture, en scooter, c'est quelques minutes, à pied, il en faut à peine 15 pour s'y rendre. En fait, ça a eu pour effet d'attirer principalement des classes populaires et moyennes sur cet espace. Et là, à ce sujet, mes enquêtés, ils ont émis ça m'a surpris, hein, des critiques en fait très vives envers cette population qui pratique cet espace et dont les usages, les pratiques ne relèvent pas en fait du caractère que voudraient y voir et encourager. Ils vont vraiment idéaliser d'une part une forme de passé glorieux de Sfax, de retrouver cet endroit qui est un peu symbolique et à l'époque d'ailleurs qui était plutôt pratiqué par les classes dominantes en montrant une forme de mépris, si vous voulez, pour les pratiques populaires qui aujourd'hui prennent place sur cet espace. Quoi. Et au sein même en fait, de la lutte, on voit aussi qu'il y a des divisions. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un rejet très fort du discours des organisations syndicales ouvrières qui ont défendu aussi la problématique environnementale à travers la fermeture de cette usine, la réappropriation de cet espace. Et qui a aussi beaucoup alerté sur la fin de l'industrie lourde à Sfax, parce que c'est des milliers d'emplois qui sont concernés. C'est des milliers d'emplois qui sont concernés. Et dans ce collectif, il y avait un vrai rejet. Alors le syndicat majoritaire qui s'appelle l'UGTT en Tunisie a une position un peu particulière, parce qu'il a beaucoup participé à l'indépendance, donc il a aussi été lié pour une bonne part au régime dictatorial, mais beaucoup moins après sous Ben Ali. Et donc il rejette beaucoup ça. Et du coup, pour revenir un peu à ce que je disais en fait sur ce modèle urbain qui se dessine à travers notamment le système des polycliniques en train de s'accroître à Sfax, il y avait aussi une volonté dans le discours de faire de ce lieu une forme de vitrine de l'action citoyenne à Sfax. En fait, presque un argument marketing, c'est presque du marketing territorial, d'une ville qui se voudrait accueillante pour son futur. Son futur urbain, cette carcérisation qui est en cours, et avec ce gros argument de la problématique environnementale qui domine cet espace politique. Et du coup, je vais conclure là-dessus et on va pouvoir en discuter. En se focalisant sur la manière dont ces mouvements ils se structurent, comment ils s'articulent en fait, à partir de régimes de pratique et de représentation, et je trouve que c'est ça qui était intéressant, quoi. Assez spécifique. En fait, ça rejoint un concept qui, en géographie urbaine, englobe plutôt ces choses-là, et c'est la citadinité, en fait, que je voulais interroger. Et je pense qu'Élodie, il y a un peu de ça dans ce que tu dis. Parce qu'en fait, là où les citadinités hein, qui sont à l'œuvre, qui vont former ce mouvement, on voit qu'il y a une cohérence entre l'emprise économique sur la ville et de l'autre, l'emprise politique par ces médecins investisseurs, par leur implication dans l'élite locale. Et donc, il y a vraiment matière à interroger comment ils se structurent aussi les rapports de force au sein, ou comment on peut les voir à travers, en tout cas, ces mouvements qui se définissent beaucoup voilà, comme citoyens, partisans, autonomes, ces choses-là. Je m'arrête ici, merci.